autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger sur les enjeux du numérique aujourd'hui. Le déploiement rapide de toutes ces technologies, de l'information et de la communication et les usages qui leur sont associés modifient profondément nos vies et notre environnement. Elles progressent bien plus vite que notre capacité à les penser. Comment relever ce défi? Comment remettre l'humain au centre de cette mutation numérique? Ces interrogations sont au cœur de la réflexion engagée par des chercheurs de tous horizons au Collège des Bernardins à Paris, dans une nouvelle chaire, l'humain au défi du numérique, sous la direction de nos invités, l'historien et philosophe Mila Douéhi et le chercheur prospectiviste Jacques-François Marchandise. Autour de la question, quels sont les enjeux du numérique pour l'humain? Bienvenue pour tenter de les penser ensemble. Bonjour Mila Douéhi.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes historien des religions, philosophe et titulaire de la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne, après avoir dirigé la chaire de recherche sur les cultures numériques à Laval au Québec. Auteur de nombreux ouvrages, on peut citer La Grande Conversion numérique et Pour un humanisme numérique. C'est un peu votre profession de foi, ou plus exactement une invitation à penser ce qui nous arrive et ce qui nous transforme, ce que vous allez faire au Collège des Bernardins en tant que co-président de cette nouvelle chaire. L'humain au défi du numérique, c'est un défi, Mila Douéhi, de remettre l'homme au centre et de tenter de penser ensemble le numérique?
Je ne suis pas sûr que c'est un défi, mais plutôt l'essentiel dans notre projet, c'est de faire revenir l'humain, à la fois pour essayer d'interroger et de penser la manière dont il est en train d'évoluer et la façon dont il s'adapte à ce que le numérique, dans sa dimension à la fois culturelle et industrielle, lui impose parfois. Et du coup, la question qui s'est posée pour nous, c'est d'essayer de trouver les éléments essentiels, que ça soit du côté de l'identité, du côté de l'espace urbain, du côté de des modifications de l'espace du travail et des conditions du travail. Et puis après, pour aller peut-être au-delà, d'essayer de penser avec et en négociation, en dialogue avec les discours, qu'ils soient post-humanistes ou cyber-humanistes ou trans-humanistes, qui essaient d'articuler une position idéologique qui dit qu'il faut que l'humain s'intègre lui-même, que ce soit par un modèle de l'augmentation ou de l'intériorisation de la machine et du numérique. Et du coup, c'est quelque chose qui est relativement vaste, mais on a essayé de mettre quelques jalons essentiels pour penser les liens qui existent aujourd'hui entre l'humain et le numérique.
Jacques-François Marchandise, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez, vous co-présidez cette nouvelle chaire donc avec Mila Douéhi, et c'est au fond parce que vous êtes depuis de nombreuses années engagé concrètement dans cette réflexion croisée entre chercheurs et acteurs du numérique. Vous êtes directeur de la recherche et de la prospective de la FING, enseignant à l'ENSCI, professeur associé à l'Université Rennes 2 et chercheur associé à l'Institut Minitélécom. Vous avez notamment participé à la conception de services publics numériques et vous coordonnez aujourd'hui de nombreux projets de recherche et de prospective sur tous les enjeux du numérique. Pour les penser, ces enjeux, ces transformations, pour vous, il faut décloisonner, c'est ça qui est important aujourd'hui?
Oui, il faut décloisonner, notamment parce que chacun a un morceau des pistes et des clés de compréhension. Et que, alors chacun, ça veut dire que tous les acteurs du numérique, depuis pas mal d'années, sont assez divers, à commencer par les usagers eux-mêmes, à commencer par les acteurs de politique publique, les industriels, et aussi parce que les clés d'interprétation de la recherche sont très précieuses sur ces champs-là, sont au fond assez mal connues de la plupart des praticiens, sont pas très utilisées pour les politiques publiques, pas très utilisées dans la course infernale de l'innovation, par exemple, et que les champs de recherche eux-mêmes sont dans nos pays plutôt trop cloisonné qu'autre chose. Donc on a besoin de réconcilier des façons de lire, des façons de faire qui ne se parlent pas toujours facilement, et on a d'autant plus besoin que à l'arrivée les humains nous sommes au milieu de tout ça, donc nous avons besoin,
et ça va vite,
ça va, alors des choses vont vite et puis des choses s'inscrivent dans le temps long, et ça fait partie des décloisonnements à faire
et de la réflexion aussi.
Voilà, l'instant et le temps long s'opposent pas forcément.
Autour de la question, quels sont les enjeux du numérique pour l'humain, on va commencer par quelques pistes de réflexion sonore forcément numérique avec le mix de notre geek à nous, Charles Pélabon, qui a mis toute son humanité, c'est possible.
Votre vie numérique, elle commence à l'instant où vous vous mettez devant votre ordinateur et vous vous connectez sur Internet.
On évolue tous dans un monde hyper connecté.
L'amour est
serai comme l'oiseau de Twitter.
La moitié de ma vie se passe dans le monde numérique.
D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
C'est vrai, c'est magnifique.
On te présente des choses dont tu sais pas si elles sont vraies.
Tout ce que j'écris là, ma mère, mon employeur ou des gens malicieux peuvent le lire.
Facebook est la version post-moderne de la Stasi.
Je trouve que les gens en particulier qui ont les smartphones ont tendance à se détacher de la société.
Le web, il est ce qu'on en fait.
T'occupe pas où on va, on sera tranquille.
Comment éviter que les nouvelles technologies se substituent à notre mémoire?
On a toujours eu des mémoires externes.
On a un côté fluide, impalpable de toutes ces quantités immenses d'informations qu'il faut récupérer et il faut arriver à s'approprier.
Maintenant que l'on a accès à n'importe quelle information, on n'a plus besoin d'élargir nos connaissances. Nous pouvons commencer à nous concentrer sur de nouvelles choses.
Le transhumanisme. Ce mouvement cherche à dépasser les limites biologiques de l'homme grâce à la technologie.
Les méthodes d'examen et de diagnostic médical ont beaucoup évolué. Nous devons ces progrès aux ordinateurs, bien sûr, mais surtout à ceux qui savent les exploiter, les programmer et inventer les algorithmes sur lesquels ils travaillent.
Ça devient de plus en plus un effort de s'adapter constamment à ces nouvelles technologies-là.
Dans quelle mesure est-ce que les artistes vont s'approprier ces technologies pour en faire de l'art?
D'autres la rejettent carrément de leur vie.
Je suis allergique à la technologie. Je ne peux plus toucher d'ordinateur, de tablette, de smartphone, plus rien.
La technologie aura forcément quelques dérives, mais nous ne pouvons pas pour autant ne pas embrasser cette technologie qui fait des merveilles.
J'aimerais savoir si c'est possible un humanisme numérique ou si le numérique ne nous condamne pas à devenir acculturés par l'excès d'accès à l'information.
C'est possible un humanisme numérique, Milad Douhi?
Pour moi, évidemment que oui, mais dans le sens où il est important de le rappeler, ne pas prendre l'humanisme comme quelque chose qui est exclusivement lié à une période spécifique de l'histoire de l'Occident et de l'Europe, mais plutôt quelque chose qui décline la manière dont l'humain s'adapte à la fois à son patrimoine, son héritage, et en même temps essaie d'évoluer et de se transformer. Dans ce cas-là, il me semble que le numérique présente une occasion, une très belle opportunité, qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas nécessairement être vigilant vis-à-vis certains aspects qui peuvent être négatifs aux problématiques de l'aspect de la culture ou de l'industrie numérique. Mais dire que l'humanisme, c'est exclusivement la Renaissance d'une certaine période, il me semble, c'est restreindre le mot à un usage assez pauvre.
En même temps, vous dites l'homme s'est toujours finalement adapté autour de la question quels sont les enjeux du numérique pour l'humain. Il s'agit aujourd'hui de s'adapter à un changement qui va très vite. Vous disiez, Jacques-François Marchandise, qu'il y a une question de temps court et de temps long, que tout ne va pas aussi vite que ça. Mais tout de même, on peut parler quoi aujourd'hui? D'une révolution numérique, d'une mutation numérique, d'une transition numérique?
Alors moi, je parle jamais de révolution. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est des sujets sur lesquels, d'une part, les grands mots et les superlatifs sont en travers de notre chemin. On a du mal.
Ils nous empêchent de penser.
Ils nous empêchent de penser. Oui, ils sont parce que au fond, il y a quelque chose d'assez terrorisant d'une part, d'assez euphorisant d'autre part. Et c'est pas là que se jouent les choses plus subtiles. Quand j'essaie de dire qu'on se situe dans le temps long, je veux dire que une partie de ce qui s'est constitué de ce qu'on a appelé à un moment donné la société de l'information, c'est en fait codifié, articulé, probablement dans le siècle et demi qui précède et non pas dans les minutes qui précèdent.
Mais en même temps, nous, on a vu, nous, citoyens, humains, on a vu apparaître tous ces objets techniques dont on se sert aujourd'hui, qui font partie de notre quotidien, qui transforment nos vies aujourd'hui.
Oui, mais d'une part, c'est nous qui les avons produits, c'est-à-dire que il faut revenir à une approche dans laquelle on comprend que la technique vient de nous. La technique n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. La technique encode à travers des dispositifs technologiques, des pouvoirs, des relations sociales, des organisations, des rapports à la connaissance, et potentiellement les dispositifs numériques vont, comme les autres dispositifs de la société, vont dans des sens opposés. Certains vont aller cloisonner complètement, hiérarchiser, centraliser le pouvoir, faire de la surveillance. D'autres, au contraire, vont complètement le décentraliser. Donc on a à l'intérieur de ces dispositifs, quand par exemple on va les appliquer à des champs comme l'éducation, comme la ville ou autre, on va pouvoir les lire au travers de lectures politiques, sociales ou économiques de ce que nous avons devant nous. Donc on n'est pas en présence d'un numérique venu d'ailleurs, complètement exotique, et encore moins d'une révolution au sens où quelques-uns auraient fomenté cette révolution pour renverser les ordres précédents. En revanche, on est en présence de capacités dont certains s'emparent pour faire des choses intéressantes dans des sens différents.
Génération numérique, ça c'est sûr, hein, pour le meilleur comme pour le pire. iWalk Sound sur RFI.
Depuis ces 10 dernières décennies, génération de l'imprimé à la culture, du tactile contrôlant notre époque avec frénésie. Pour chaque période, l'homme s'adapte et se modernise. Une perversion camouflée pour étendre son emprise. Des outils numériques que l'on utilise à outrance pour chaque action de vie. L'écran nous guide sans défaillance.
Génération qui en peu de temps a vu son incroyable expansion et constate avec stupéfaction sa subtile perversion nous imposant son évolution. Il s'invite dans nos foyers de façon définitive. Il nous aide dans nos recherches, ses infos sont exhaustives. Il nous assiste même dans nos démarches administratives. L'interlocuteur privilégié quand on l'active.
Enfant du numérique, hypnotisé par les écrans. La culture de l'image qu'on impose à nos enfants. Enfant du numérique, agressé tout le temps. Il nous dicte et influence nos comportements.
Sa télé, quelque chose d'habituel. Allumer son ordi fait partie d'un rituel. Checker son portable, toujours l'avoir en visuel. Ou quand les rapports humains laissent place au virtuel. Un écran qui nous sert de miroir nous reflète notre image quand on crée des profils. Afficher nos photos, déballer nos histoires, compter même les choses les plus futiles.
Cette révolution fait que nous sommes en train de perdre la personnalité de l'homme, la grandeur de l'âme. Ce ne sont que des vies virtuelles qui apparaissent sur la toile. Tu deviens personnage public. Et il faut que tu saches utiliser cela. Rester vigilant, conscient de façon catégorique. C'est pour ça que tu dois savoir vivre avec cette culture de l'écran quasi totalitariste.
Enfant du numérique, hypnotisé par les écrans. La culture de l'image qu'on impose à nos enfants. Enfant du numérique, agressé tout le temps. Il nous dicte et influence nos comportements.
Génération numérique sur RFI, le groupe iWalk Sound autour de la question: quels sont les enjeux du numérique pour l'humain, avec nos invités Mila Douéhi et Jacques-François Marchandise, en charge de la nouvelle chaire du Collège des Bernardins, l'humain au défi du numérique. Je vous propose un nouvel éclairage qui résume parfaitement ce défi, justement, celui de la physicienne Nathalie Besson, qui était récemment notre invitée.
Pour moi, c'est un grand écart, le web. Et t'as pas envie qu'il y ait trop de répressif dedans, c'est ça le problème. Parce que, par exemple, on est tous Charlie. Eh ben, il y avait un type, je pense que c'est un physicien, il était tout seul dans son désert. Eh ben, il était quand même Charlie. Et puis, il avait un petit papier où il mettait, du fin fond du désert, je suis avec vous, tout seul, mais avec vous. Et puis, il avait pris la photo et il l'a mise sur le web. Bon, bah, ça, c'est le bon côté du web, on est tous ensemble. Et puis, on partage. Puis après, c'est aussi sur le web que, paraît-il, on peut trouver comment fabriquer une abominable bombe pour aller zigouiller des gens. Je pense que c'est inévitable, c'est-à-dire le web, il est ce qu'on en fait. Il y a du meilleur comme du pire. Donc les gens bien, ils en font quelque chose de bien. Et puis si on a une mauvaise idée derrière la tête, bah, ça va se transformer. C'est puissant hein, comme outil.
La puissance du web qui sera et qui est ce qu'on en fait, le meilleur comme le pire. Vous voulez réagir à cet éclairage de la physicienne Nathalie Besson, Mila Douéhi?
Je crois qu'on peut tous être d'accord. C'est un lieu commun de dire qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il me semble qu'il faut aller un peu plus loin aujourd'hui, parce que ça revient à un discours assez classique qui dit que la technique est neutre. Et moi, à mon avis, le numérique n'est pas neutre. Il faut le penser autrement et le détacher de l'héritage classique qu'on a depuis très très longtemps, du monde grec jusqu'à la philosophie du XXe siècle, et à essayer de penser la technique. Le numérique est une technique, mais c'est aussi autre chose et plus qu'une technique.
C'est pas seulement une technique, c'est un outil.
Plus que ça, à mon avis, parce que le numérique est quelque chose d'un ordre extrêmement différent à cause de la nature à la fois de l'informatique et du code informatique. Il y a un discours, ce n'est pas seulement des objets et des instruments. Il autorise certains usages, mais à cause de la nature du code, ils peuvent être modifiés de manière dynamique qu'on n'avait pas avant avec les autres machines qui étaient l'articulation et la présence des objets techniques dans nos sociétés. Il me semble qu'il faut qu'on se libère un petit peu de ce discours qui est très puissant et qui est très important.
D'où la puissance justement de cet outil, c'est qu'en fait il se modifie en permanence.
Il se modifie parce qu'il est aussi, c'est la nature du code, il est voué à la relecture, à essayer de l'améliorer, à le modifier. C'est pas comme une boîte noire, une fois qu'elle a été construite dans une usine, on vous la livre et c'est réglé. Je crois que c'est autre chose. Et il me semble que c'est là, il y a quelque chose de radicalement autre qui est intervenu avec l'informatique industrielle et avec le numérique aujourd'hui.
Et c'est d'autant plus difficile de le penser, justement, puisque c'est constamment en mouvement et qu'il sera ce qu'on en fait. Jacques-François Marchandise.
Difficile, en fait, on a des nouveaux objets de pensée et qui sont intéressants parce qu'on peut les relier aux objets antérieurs. Hein, c'est pas. Mais si je vous prends un exemple tout simple, c'est les données. Les data, il y a quelques années encore, c'était quelque chose que seuls les informaticiens connaissaient, comprenaient et savaient manier. Au fond, c'est le travail de l'informaticien de les stocker, de calculer avec, etc. Et progressivement, les données sont devenues des objets profanes, des objets qui sont des objets politiques, économiques et sociaux. On parle de la valeur économique de la donnée, on parle de projets politiques autour de l'open data, on parle de grands horizons du big data qui va permettre de prédire, d'organiser, etc. Et puis, nous savons maintenant que nous sommes tous non seulement des gens qui sont exposés à nos propres données personnelles, mais aussi des producteurs de données. Nos traces numériques, notre balance, si par hasard on a une balance connectée, ce qui se passe dans la rue, ce que nous faisons de nos téléphones produisent des données. Et donc ça nous met devant les yeux un nouvel objet de pensée qui va permettre de lire des choses assez riches de nos vies quotidiennes et qui va en même temps être une entrée parmi d'autres pour comprendre l'effet que Milad vient de mentionner, c'est-à-dire que l'effet que, à propos, le numérique, ça rend les choses calculables, combinables dans une pensée issue des mathématiques et de la pensée informatique qui va passer par l'algorithme, etc.
Et qui du coup va pouvoir aussi être utilisable et utilisé par tout le monde, par des gens bien comme mal intentionnés.
Ah mais complètement. Mais au fond, tous les dispositifs de la société, je veux dire le bout de bois ou le caillou ou le feu, il s'est passé la même chose systématiquement. La question qui va se poser, c'est quand est-ce qu'on va avoir prise, quand est-ce qu'on va avoir une maîtrise, quand est-ce qu'on va arriver à comprendre même dans quel environnement on est, et une partie de notre sujet va être de le comprendre.
D'essayer simplement de comprendre, de s'arrêter, oui, oui. On en fait partie, mais de comprendre qu'on en fait vraiment partie.
En fait, la pire des situations avec le numérique, c'est le numérique subi. C'est les positions dans lesquelles il nous tombe dessus comme un ensemble de modifications brutales et incompréhensibles. Tous les gens qui vont se retrouver avec le numérique dans une pratique, qui vont en faire quelque chose, soit parce que ils ont leur blog en ligne, soit parce que ils vont fabriquer des objets avec les machines à commande numérique, soit parce qu'ils vont faire n'importe quel usage de cartographie locale, etc. avec change complètement de posture avec le numérique, ça devient des choses qui peuvent s'approprier, qui peuvent prendre avec eux, comprendre.
Strictement. Donc au fond, c'est comment devenir aussi acteur, puisqu'on est de toute façon dedans. C'est ça aussi, Milad Douaïm ?
Je crois une partie de l'idéologie fondatrice de l'informatique et du numérique qui était dans le logiciel libre présuppose que tout utilisateur est codeur, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il doit apprendre à coder, mais elle lui donne l'option. Je crois que c'est tout à fait important. Il faut partager le code pour éviter de le mystifier. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. Deuxième aspect qui me semble également important, c'est d'essayer de surmonter le blocage vis-à-vis de ce qu'on appelle ou bien la pensée algorithmique, ou bien la raison informatique. C'est de comprendre ce que c'est, quelle est sa genèse et sa généalogie, parce qu'elle s'inscrit dans une tradition qu'on maîtrise très bien.
Comment devenir acteur autour de la question, quels sont les enjeux du numérique et comment les penser? On poursuit la réflexion dans 3 minutes, si vous le voulez bien, juste après le flash d'info. On se retrouve pour inventer ensemble un humanisme numérique. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quels sont les enjeux du numérique pour l'humain ?» Nous sommes en compagnie de l'historien et philosophe Milad Weihi et de Jacques-François Marchandise, prospectiviste et chercheur. Tous deux président la nouvelle chaire du Collège des Bernardins, « L'humain au défi du numérique ». Et pour le relever, ce défi retour aux sources avec arrêt sur l'image d'Alan Turing, mathématicien et crypto-analyste de génie, père de l'ordinateur, extrait de la bande-annonce du film « Imitation Game » actuellement sur nos écrans.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Avez-vous déchiffré le moindre message allemand ?
Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là !
Notre patience a atteint ses limites.
La vie et les circonstances de la mort d'Alan Turing, Imitation Game, actuellement sur nos écrans. En concevant cette machine intelligente, est-ce qu'Alan Turing avait conscience de tous ces enjeux, des transformations, ce que ça allait engendrer à tous les niveaux, Milad Weihi?
À mon avis, il avait absolument conscience des enjeux. Ça, c'est évident. Il suffit de relire le texte fondateur Computing Machinery and Intelligence, parce que c'est explicite dans le texte. Mais il faut préciser deux choses. L'intelligence ne l'intéressait pas.
Pourtant, on dit que c'est le père de l'intelligence artificielle.
Mais ça, c'est la réception. Aujourd'hui. Et puis après, ce qu'on a fabriqué avec l'héritage et l'aura du Turing, je dirais. Il s'intéressait, il le dit très explicitement dans le texte, à essayer de concevoir une machine qui sait apprendre et qui arrive à quelque chose comme la pensée. Le titre de film, The Imitation Game, c'est le jeu qu'il a inventé, qui est un jeu social, et c'est tout à fait important de le rappeler. Le jeu consistait à avoir deux interlocuteurs, un homme et une femme, et une machine, et la machine devrait deviner si c'était un homme ou une femme à qui elle s'adressait. C'est foncièrement social, et je crois qu'on a oublié, il y a une surcharge symbolique de l'intelligence depuis un certain temps, à laquelle il faut résister, à mon avis.
Parce qu'on parle effectivement beaucoup d'intelligence. Tous nos objets sont devenus intelligents. On est dans un monde qui parle d'intelligence. On a presque peur que cette intelligence-là de nos objets nous dépasse, d'ailleurs.
Je crois que c'est le mal numérique, si j'ose dire. Oui. C'est cette obsession avec l'intelligence. Tout est devenu intelligent. Alors, on ne définit jamais ce que c'est l'intelligence, ce qui est extrêmement difficile pour commencer. Et puis après, on se rend compte assez souvent, c'est un discours de marketing. Que ça soit pour vendre de nouveaux objets, de nouveaux services. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les modèles d'apprentissage, la manière dont les machines, si on veut utiliser ce mot, s'installent et peuvent prédire certaines choses, donner accès à des choses à cause de la surabondance de l'information qui aurait été inaccessible.
C'est-à-dire, Milad Weihi, que ces machines, au fond, plus qu'être intelligentes, sont des machines capables d'apprendre.
À mon avis, c'était l'idée, et c'est la construction de Turing, ce qu'il appelle une machine apprenante. Il y avait à une époque à Cambridge, Massachusetts, une grande entreprise, Thinking Machines. Et ils ont utilisé l'expression de Turing, non pas Intelligent Machines. C'était des machines pensantes.
Des machines
Mais
pensantes,
après,
des machines
qui pensent. Mais après, il faut préciser comment expliquer penser, comment le construire. Il le dit explicitement, il faut le relire. Il va essayer de répondre à toutes les objections possibles, entre guillemets, qu'elles soient littéraires, théologiques, sociologiques, historiques, philosophiques. Et je crois, dans ce cadre-là, on voit tout de suite que la machine est sociale, elle est inscrite dans un échange qui est à la fois discursif et un écosystème d'apprentissage, et qui évolutif. Dans ce sens-là, on peut parler d'une forme d'intelligence, on est d'accord, mais il ne faut pas non plus exagérer avec la peur qui s'installe parfois que l'intelligence artificielle va nous dépasser, va nous contrôler, et on entre dans des récits ou des scénarios hollywoodiens, ou bien la machine qui va éliminer l'homme, ou si c'est sa dernière créature. Il me semble que c'est un héritage de la Genèse biblique, de la chute, et c'est la chute de l'humain devant la machine qu'il faut éviter quand même.
Donc il faut pas tout confondre, mais tout de même, ces objets ou ces machines, alors peut-être pas intelligence, mais ces machines pensantes ou apprenantes, vous l'avez dit, Milad Weihi, elles transforment nos rapports sociaux et profondément, ça fait partie des enjeux du numérique, elles transforment les rapports sociaux entre humains. Jacques François Marchandis.
En fait, elle transforme les rapports sociaux et la question va se poser de comment nous sommes capables d'interagir avec. C'est-à-dire, est-ce que les dispositifs que nous mettons en place, les dispositifs par exemple intelligents que nous mettons en place, nous laissent prise ou non ? Si je prends des exemples dans lesquels on parle beaucoup d'intelligence en ce moment, que ça soit la ville intelligente, les réseaux électriques intelligents, etc. La question qui revient constamment depuis que ces idées-là sont poussées, hein, y compris la maison intelligente qui est une héritière de la domotique des années 60, qui a survécu de façon très surprenante et qui est en train au fond d'avoir son heure de gloire avec l'arrivée des objets intelligents dans la maison, chose absolument passionnante à regarder. La question est de savoir si on est dans un modèle dans lequel nous subissons nos environnements, dans lequel nous avons prise. Est-ce que c'est un modèle qui va essayer de faire notre bien malgré nous, qui va en fait être une intelligence de substitution, ou est-ce que nous allons arriver à articuler nos intentions avec les capacités de ces dispositifs.
Mais ça, on a notre mot à dire là, ou il faut déjà poser cette question-là et essayer de le penser.
Mais on a tout le temps notre mot à dire, à condition de sortir d'une logique de la substitution, à condition de se dire non, ces choses-là ne sont pas là pour nous remplacer, elles ne sont pas là pour nous évincer, elles sont là parce qu'à un moment donné, oui, elles peuvent s'articuler avec nous de façon assez fine. Dans les premières campagnes d'Apple dans les années 80, parlaient de wheels for the mind, des roues pour l'esprit, c'est-à-dire de choses qui pouvaient nous aider, nous accompagner avec
des auxiliaires en fait.
Des auxiliaires et la difficulté que nous avons là où on commence à être dans des peurs et dans des terreurs autour de l'avenir, c'est quand on suppose que la machine va remplacer l'humain. Or, est-ce qu'on
de fait, nos téléphones et nos ordinateurs ne nous remplacent pas, mais ils prennent une grande part dans nos vies.
Oui, mais c'est nous qui investissons dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est joué par exemple sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui s'est joué sur c'est que les formes collectives qu'on connaissait dans la société, qui sont des formes collectives extrêmement stables, se sont déconstruites au cours des dernières décennies. La nation, la famille, les formes de l'habitat, etc. Tout raconte ça. Nous avons réinvesti toutes les propositions collectives qui nous étaient faites, pas seulement celles du numérique, à plein d'autres endroits. Simplement, celles du numérique sont très puissantes parce qu'elles sont combinatoires, parce qu'elles sont réticulaires, etc.
Donc, c'est nous les humains qui avons changé aussi et qui nous servons des outils numériques pour accompagner nos changements. C'est ça que vous dites aussi.
Mais bien sûr, et ce dont nous pouvons avoir peur, c'est que cette puissance-là tombe entre des mains qui en fassent des choses parfaitement indésirables. Ce que nous pouvons souhaiter, en revanche, c'est que les concepteurs de dispositifs numériques les maintiennent réparables, laisse du vide, laisse du possible, permettent de l'imprévu et donnent des choix.
Autour de la question, quels sont les enjeux du numérique et comment accompagner ces défis, justement, puisque votre proposition, c'est d'accompagner tous ces défis plutôt que de les nier ou de s'y opposer et de tenter aussi de les penser collectivement. Je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'une chercheuse, Ghislaine Azémar, professeure des universités, titulaire de la chaire L UNESCO Innovation, Transmission, Édition Numérique, qui réfléchit notamment à la place de l'émotion. L'émotion est-elle compatible avec le numérique? On écoute Ghislaine Azémar au micro de Charlie Dupiau.
La question de l'émotion, c'est avant tout un attribut humain. Hein. C'est peut-être un des plus difficiles à virtualiser. On parlerait difficilement d'émotions artificielles, hein, vraiment, parce qu'il y a énormément de paramètres qui constituent l'émotion et qui ne seront pas forcément facilement transposables. Par contre, effectivement, toutes les technologies qui se multiplient nous permettent d'interagir avec une multitude d'individus. Je dirais que le système de communication en s'élargissant nous permet d'élargir finalement notre champ relationnel, notre champ donc émotionnel. On peut, avec des technologies simples, finalement voir des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous. On peut donc entretenir une relation de type plus émotionnel parce qu'on a non seulement la voix, mais on peut avoir les visages, etc. Donc je crois que l'endroit où la difficulté de transposition serait la plus importante, c'est quand on laisse supposer qu'avec le numérique, on peut créer des avatars émotionnels et qu'un avatar émotionnel peut interagir avec un humain parce qu'on aurait réussi à décoder finalement tout ce qui fait que l'émotion a lieu. Je pense que là, justement, c'est peut-être encore assez peu convaincant. Il y a énormément de systèmes qui se rapprochent de nous. Je pense en particulier à toutes les montres qui quantifient vos émotions, qui quantifient votre manière de vous comporter, de marcher, de vous nourrir. Enfin. Mais j'ai le sentiment quand même, et c'est un peu des questions qu'on se pose au niveau de la chair, qu'on a encore beaucoup à comprendre sur le rôle de chacun des médiums dans la manière dont on produit de l'émotion, on produit de la mémorisation, on produit de l'attention. C'est-à-dire qu'on est allé très très vite, je dirais, d'apprentissage simple à la virtualisation, sans peut-être avoir encore fait tout le trajet sur l'impact à la fois émotionnel mais mentaux globalement que chacun des médiums avait sur l'individu.
L'impact émotionnel et mental que toutes ces techniques, tous ces outils, tous ces médiums numériques ont sur les individus, ça s'est fait très vite. Qui veut réagir à cet éclairage de Ghislaine Azemar ? Miladoui ?
Oui, c'est évident que ça a un effet sur nous, à la fois physiologique, ça on le sent, et en même temps psychique, disons. En effet, après, il y a des efforts actuels qui sont évoqués par Ghislaine, et elle a parfaitement raison. C'est essayer de formaliser des représentations dans l'ordre informatique et numérique, les émotions, et ainsi de suite. Il me semble que c'est quelque chose d'assez futile, parce que c'est pas du tout intéressant, parce qu'on oublie que tous ces aspects-là sont liés à un contexte spécifique. Et c'est le contexte qui est tout à fait important et déterminant. Et du coup, essayer de trouver un modèle général pour à la fois quantifier et se représenter, que ça soit les passions ou les émotions ou même l'oubli. Il y a toute une série d'éléments qui sont associés de manière très intime, très puissante à l'humain, qui échappent à cet ordre de l'informatique et du numérique.
Mais en même temps, l'informatique et le numérique nous met face à ces questions, celle de l'oubli, celle de la mémoire, celle de...
Oui, mais je crois qu'il faut aussi savoir distinguer. Je crois il faut savoir distinguer entre la mémoire et l'oubli qui sont dans l'ordre du réseau et du numérique, de la mémoire et de l'oubli qui sont dans l'ordre de l'humain. C'est deux paradigmes qui sont pas du tout les mêmes. Et on a tendance à les confondre, parce qu'on a tendance à les penser comme dans la continuité et l'externalisation de la mémoire humaine dans le stockage et la surabondance de l'information.
Oui, on dit qu'on externalise aujourd'hui notre mémoire.
Mais je crois que c'est toujours très, très curant, mais on est dans des ordres et registres extrêmement différents, il me semble.
Vous dites qu'il y a la machine d'un côté, il y a nous de l'autre.
Je crois, à mon avis et à ma connaissance, la machine ne s'est pas oubliée. Pour la machine, quand elle oublie, c'est une faille technique, c'est une perte de données. S'il y a une sauvegarde, on va les retrouver. C'est autre chose que l'oubli. L'oubli, c'est productif, c'est essentiellement humain. Sans l'oubli, on devient monstre, pour reprendre l'expression classique. Je crois qu'on est dans des registres très très différents, mais on a un discours qui nous donne l'illusion, et c'est un leurre à mon avis, de la continuité avec ce discours. On s'externalise, on va faire autre chose avec notre capacité mentale, on va laisser le stockage aux machines et à l'ordre numérique. Je crois que c'est complètement faux. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir exploiter ce qui est disponible aujourd'hui plus facilement, plus rapidement, ça c'est une autre question.
Mais vous dites aussi, donc comme Jacques-François Marchandis, qu'au fond il s'agit toujours d'un auxiliaire et qu'on met peut-être trop de puissance dans ces machines, dans ces outils numériques. Peut-être parce qu'on ne les comprend pas assez, peut-être parce qu'il faudrait être éduqué plus pour.
Parce qu'on est impressionné, et effectivement il faudrait certainement être éduqué plus pour. Par exemple, par commodité, quand on découvre l'informatique, on nous laisse supposer que la mémoire informatique ressemble à notre mémoire. Et en fait, elle est très différente. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas structuré de la même façon pour des tas de raisons techniques et biologiques de part et d'autre. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas un disque dur, par exemple, du tout. Il y a tout un ensemble. D'autre part, tout un ensemble de constats qu'on peut faire. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait Ghislaine Azemar. C'est-à-dire tout un ensemble de constats qu'on fait autour de ces nouveaux médiums du numérique sont des constats sur lesquels nous n'avons pas encore fait notre courbe d'appropriation, notre courbe d'apprentissage. Nous n'avons pas encore assez fréquenté ce qui se passe avec ça.
C'est arrivé un peu trop vite.
Oui, mais ça arrive toujours trop, je ne sais pas. Au fond, il y a des choses très intéressantes dans les façons dont les artefacts du cinéma, par exemple, ont été reçus dans un premier temps et dont progressivement nous avons eu une culture de l'expérience cinématographique, aussi bien celle que peuvent avoir les réalisateurs réalisateurs et les autres intervenants du cinéma, etc.
Ici, ça veut dire quoi que au fond, il faut se donner le temps justement de penser, de s'approprier tous ces outils-là.
On est dans des maturations collectives. C'est la chose qui est en train de se passer sur plusieurs décennies. On va pas faire comme si le numérique était de la semaine dernière. Pour ma part, ça fait un peu plus de 30 ans que je m'y intéresse et que il y a des choses qui ont l'air toutes nouvelles et qui étaient déjà là il y a 30 ans. Il y a des très bons textes sur l'éducation et l'informatique ou l'éducation et ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique qui date des années 70. Donc c'est pas des choses qui prennent 5 minutes. On a besoin de ce temps-là qui est un temps à la fois de confrontation, qui est un temps conversationnel. On a besoin de se trouver confronté aussi à tous ces artefacts dont nous sommes les coproducteurs. On sait que là-dedans, il y a aussi de la fabrique d'imaginaire, de la même façon qu'il y en a dans la fiction et le récit qu'il y a dans le cinéma.
Autour de la question, quels sont les enjeux du numérique pour l'humain ? Nous, on revisite Gainsbourg avec Arnold sur RFI, Petite Geek.
Petite geek sur mon compte mythique, viens faire des zooms, viens faire des clics, des
petits chats,
des flashs, des comme un éclair, Shazam, lol, blog, tweet, wifi, toi, moi, je fais du ramdam, lance-moi tes smileys derrière ta webcam, ça fait
buzz, ouf, bug,
parfois même spam, Shazam, lol, blog, tweet, viens petite geek visiter mon site, viens faire
j'aime
sur mes fichiers
Zuck,
des
lolcats,
des
box,
des tags à mes pecs, Shazam, lol, blog, tweet, viens petite geek croquer dans l'Apple, suis mes liens, tu verras si tu
Google
mon statut
Facebook,
je suis passé
single,
Shazam, lol, blog, tweet. Geek sur mon compte mythique, viens faire des zooms, viens faire des
clics,
des
petits chats,
des
flashs,
j'ai comme un éclair, Shazam, lol, blog, tweet, n'aie pas peur des pirates et des hackers, des no
life,
des du nom des
serveurs,
contrôle,
alt,
supprime, appuie sur
enter,
Shazam, lol, blog, anonymous.
Petite geek, ça vous fait sourire sur RFI. Arnold revisite Gainsbourg à la sauce numérique autour de la question quels sont les enjeux du numérique pour l'humain et comment justement les artistes peuvent-ils se les approprier. Je propose un dernier éclairage sur le net art, un art exclusivement numérique, étudié, enseigné, pratiqué par Nicolas Esposito, enseignant, chercheur et responsable de la recherche à l'école de l'image des Gobelins à Paris. Il est interrogé par Charlie Dupiot.
On appelle le net art la possibilité d'utiliser le web pour créer, diffuser des productions artistiques. Et en mettant en lumière justement les spécificités du numérique, jouant sur le 0 et sur le 1 par exemple, sur des interactions de base, sur l'apparition, la disparition. Voilà, il y a énormément de directions dans lesquelles on peut exploiter le médium web finalement, dans une visée artistique.
C'est un art qui, en fait, est collaboratif, peut-être plus collaboratif que les arts traditionnels qu'on connaît.
Ça joue beaucoup sur l'interactivité, donc forcément, ça prend en compte la personne qui se saisit, là, en l'occurrence, de la souris, la possibilité d'avoir des hyperliens, de passer d'une page à une autre, de rentrer à l'intérieur du code pour voir des choses qu'on ne verrait pas simplement dans son navigateur. Potentiellement, aussi, la possibilité d'interagir avec d'autres utilisateurs qui, eux aussi, sont connectés. Les possibilités explosent assez rapidement. On peut avoir des œuvres qui évoluent en fonction de ce que font les internautes avec cette œuvre, sachant que ça peut en plus être, par exemple, connecté à une installation dans un musée, et il peut y avoir des interactions entre les visiteurs du musée et les internautes.
Peut-être que vous auriez une question pour nos deux invités, Milad Douéhi et Jacques-François Marchandise.
Comment on peut déterminer l'authenticité d'un contenu qu'on va, par exemple, sortir d'une base de données? Comment est-ce qu'on va dire « ça, c'est effectivement le livre numérique que j'y ai placé il y a 50 ans ?» Je serais curieux de savoir quelle serait leur position sur le sujet.
Qui veut ou qui peut répondre à Nicolas Esposito?
À la dernière question, je ne sais pas si on peut toujours être sûr de l'intégrité de la donnée. Il y a des moyens de s'en assurer avec le temps, mais qui sont toujours également susceptibles d'être modifiés par les effets de l'informatique et du code.
C'est-à-dire que l'authenticité d'une œuvre
L'authenticité s'est déplacée, ce qui ne veut dire qu'elle, pas du tout qu'elle n'existe pas, mais il me semble aussi qu'il faut également qu'on accepte que l'informatique et le numérique ont introduit de nouvelles valeurs et qui touchent précisément à des choses comme par exemple l'authenticité, et du coup il faut essayer de la penser dans le contexte et l'écosystème qui est celui de l'informatique et du numérique. Est-ce qu'on peut garantir la même chose dans la longue durée avec les effets de piratage, de hackers et ainsi de suite? Ce n'est pas sûr. En même temps, je ne suis pas sûr qu'à la fin, c'est peut-être la question la plus essentielle à mon avis.
Oui, parce qu'en même temps, finalement, ça change le statut de l'œuvre, ça change le statut de l'artiste aussi. On pourrait tous, en plus, dans ce que disait Nicolas Esposito, alors peut-être pas devenir des artistes numériques, mais en tout collaborer à des œuvres collectives aussi.
Dans ce que j'ai entendu, je dirais deux choses. Il a parlé surtout, si j'ai bien compris, de l'art qui est sur le web. Je crois que c'est une partie tout à fait importante. Il y a aussi de l'art qui n'est pas nécessairement sur le web et qui utilise et qui essaie de contourner les outils informatiques et numériques et qui est également important. À mon avis, ce qui change, il y a une longue histoire qui a commencé dans les débuts des années 60, peu importe. Ce qui change à la longue pour moi, c'est le statut du spectateur. On n'a plus le même statut du spectateur qu'on avait dans le passé.
On n'est pas simple spectateur, c'est ça que
vous dites ? On n'est plus spectateur dans le sens classique qu'on avait. La distance qui était déterminante dans la construction de l'œuvre, du regard, et même dans l'implication et l'invitation au spectateur, n'est plus la même, à cause de la nature des objets et la nature des dispositifs et des outils. Je pense que c'est quelque chose de fondamental qui nous invite à repenser l'esthétique numérique, non pas l'esthétique du numérique, mais l'esthétique numérique.
C'est-à-dire qu'on fait partie prenante aujourd'hui,
on est partie prenante. Absolument. Écoutez, le fait que vous pouvez même toucher l'écran et avoir l'impression d'être en train de manipuler un tableau, ça modifie complètement. Prenez un tableau de Quattrocento qui est construit sur la distance de la perspective, elle disparaît. Alors comment revisiter autrement aujourd'hui, c'est tout à fait passionnant.
Question pour l'artiste et question pour, alors on va pas dire le spectateur, mais question pour chacun d'entre nous, Jacques-François Marchandise.
Oui, et notamment dans le fait de comprendre, je pense qu'il y a un sujet clé, c'est le fait que on n'est pas avec le numérique dans une grande soupe homogène. On est dans un paysage de dispositifs assez contrastés et assez contradictoires. Donc moi, j'aime bien la question de Nicolas Esposito autour de qu'est-ce qui ferait qu'on puisse déterminer l'authenticité dans certains dispositifs. Où par exemple on pourrait horodater, certifier, avoir des tiers de confiance qui, etc. On sait tout à fait sourcer, on sait construire des dispositifs qui vont permettre des décennies après de certifier l'authenticité. Dans d'autres dispositifs, il est quasiment prévu qu'on ne puisse pas. Il est prévu que, au contraire, il y a une espèce de lessiveuse numérique qui fasse que je vais savoir anonymiser, je vais savoir tromper éventuellement. Donc, les contextes et les environnements numériques déterminent le fait qu'on puisse ou non remonter à une traçabilité, remonter à une certification.
Donc tout dépend à la fois de l'usage qu'on en fait et de la décision, de qui décide, comment.
Oui. Et de quelles sont les formes de la confiance. Est-ce que, par exemple, c'est une confiance normée, sécurisée, certifiée, ou est-ce que c'est une confiance entre pairs, etc. Et après, ça renvoie à nos formes de relations, à ce que Milad mentionnait à l'instant, où je dirais ça renvoie à ce que peuvent être nos expériences artistique par exemple dans le champ numérique. Notre expérience, si je regarde par exemple nos relations à l'image numérique, ce sont des relations qui sont à la fois plus distanciées que celles de l'image muséale, parce qu'on pourrait dire qu'on ne touche pas la matière, hein. À un moment il faut qu'on finisse nos apprentissages et comprendre que une image en 800-600, ça n'est pas la même chose que ce dont c'est la photo, mais ça on le sait déjà dans les relations attention à la photo et l'œuvre qu'il photographiait, mais on voit aussi que c'est une matière maniable et une matière qui va permettre certaines formes de contact et certaines formes d'interaction assez nouvelles. Parmi elles, il y a des interactions qui vont nous promener dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des narrations passant par le numérique. Ce qui est certain et qui est fascinant depuis le début du numérique, c'est que, par exemple, s'expérimente, des choses que Nicolas Esposito mentionne, c'est-à-dire le fait d'avoir des nouvelles formes narratives qui vont exploser les cadres de l'ancien objet industriel que peut être le livre, qui était très déterminé par ses conditions de production. Là, il y en a d'autres conditions, et le propos de ça est artistique. Le propos de l'hyperlien, le propos de ces deux formes qui ont été explorées par Jean-Pierre Balpe depuis des années et pas mal de poètes, par exemple, est un propos artistique et esthétique et non pas un propos numérique.
En tout cas, tout bouge, tout peut bouger, et à nous de devenir acteurs et d'apprendre à devenir acteurs de ces grandes mutations et de tous ces mouvements. Merci à tous les deux d'être venus en direct. Donc, je rappelle que la chaire du Collège des Bernardins, l'humain au défi du numérique, proposera des séminaires tous les mois au Collège des Bernardins à Paris, donc jusqu'en 2007, avec des chercheurs de tous horizons. Le programme est alléchant et le lien est sur notre page. Et puis, je signale aussi, Mila Douéhi, votre livre, à la manière de Un sauvage chez les geeks. Ça sera à paraître très bientôt aux éditions Herman. Merci à tous les deux. Merci Jacques-François Marchand.
Merci.
Merci Mila Douéhi.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, nous nous interrogeons sur les infinies possibilités de notre cerveau en lien avec notre corps. L'un ne va pas sans l'autre et l'un agit sur l'autre. Autour de la question comment transformer notre cerveau, nous découvrirons pourquoi neurosciences et méditation font si bon ménage à l'intérieur. Avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, merci à Charlie Dupuot pour ses éclairages. Amis auditeurs et internautes, portez-vous bien, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Dans quelques instants, 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.